que c'est que ça?
C'est copain?
Comment ça, copain, foutez-moi?
Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon.
Je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Guilin.
Docteur, il fait de l'anémie, il ne mange pas.
Il fait de l'anémie? Mais bouffez-le, moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais bouffez-le!
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Le petit cochon, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Bah oui, c'est un peu la Saint-Cochon, c'est la Saint-Foie-Gras, etc. On vous souhaite une très belle après-midi, sur France Inter. Bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement avec Grégory Vallon et Michel Thomas à la technique. Et assisté de Stéphane Combe, sans oublier un homme du Maine-et-Loire qui s'appelle Albert Hook. C'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Les reines du Père Noël vont bientôt placer leurs sabots dans les starting blocks. Oui, on les entend. La trêve de Noël va débuter. Donc toute l'équipe de CO2 de Mon Amour s'associe à ce moment et le mauvais esprit sera mis au piquet de trêve. Pour quelques jours, il n'aura donc pas le droit de citer. Pas question pour nous d'évoquer les nouveaux déboires de l'EPR, autrement dit énergie passablement ruineuse. Inutile de s'arrêter sur ces tracas tout frais puisque d'autres viendront. La hotte du Père Noël peut-elle contenir un chariot élévateur géant tout neuf capable d'installer un réacteur nucléaire et ainsi contribuer à ne pas allonger davantage la durée et la facture d'un chantier pharaonique? Ah bah on le saura plus tard. Nous n'irons rien non plus du feuilleton aéroporté de Notre-Dame-des-Landes, même si de nouveaux épisodes à base d'arrêtés préfectoraux viennent de sortir. La direction oiseau entre autres, sera-t-elle respectée? On ne sait pas. En revanche, les directions avions, qui ne sont jamais que des gros oiseaux hein, sur lesquels on a posé des réacteurs, bah oui, c'est ça, se préparent-elles à dérouler son bitume? Eh bien, la saison 2014 de la série risque de se révéler tout à fait passionnante. Pas question non plus de faire la moue devant tous ces cadeaux, souvent de pures merveilles de la technologie, qui afficheront une fâcheuse tendance à tomber en panne un peu après la date d'expiration de la garantie. Un seul mot d'ordre en cette période de trêve en 4G, consommons sans faiblir, les poubelles sont à remplir. Réjouissons-nous donc plutôt de voir que l'obsolescence programmée a encore de beaux jours devant elle. Et c'est, nous tenterons aussi à peine un léger sourire en songeant à cette mode qui consiste à revendre sur Internet des cadeaux à peine extirpés du pied du sapin. Les temps sont durs, la crise n'a absolument rien de virtuel. Bon, on ne va pas vous envoyer non plus parce que c'est promis avec la diététique. Pour fêter dignement la Saint-Cholestérol, tout est permis. Nos artères, parfois aussi encombrées que celles de nos villes, n'ont qu'à bien se tenir. Et puis ces écolos, qui nous culpabilisent surtout? Le foie gras, les conditions d'élevage, la souffrance animale, la corrida, ah là là, au bûcher, tout ça. Ah non, pas au bûcher parce que ça va dégager des particules fines et ça, c'est pas bon pour les poumons. Ah oui, vous avez raison, on va plutôt les écarteler avec des animaux, c'est beaucoup plus écologique. Je plaisante. Franchement, peut-on se passer de tous ces aliments produits à l'autre bout du monde qui nous parviennent directement sur la table du réveillon, non pas par la cheminée, mais par avion ou camion hein? En même temps, s'il faut compter sur les rois-mages pour les livrer, pour livrer la dinde, on risque de la manger très froide. Et puis tenez, dans votre crèche, pensez à innover. Plutôt que de reprendre comme chaque année l'âne et le bœuf, hein, qui prennent une place folle dans nos appartements étroits, eh bien optez pour quelques poules. Elles bouffent tout, les poules. Elles pourront même servir de ramasse-miettes qui, lui, c'est sûr, ne tombera pas en panne. Alors, je vais vous offrir cette très jolie petite phrase qui est lue par Jacques Bonafé.
Le septième jour, Dieu créa l'homme à son image. Le huitième jour, l'homme fit de même avec les déchets.
Et au menu de cette édition, eh bien, on va avoir trois jolis chapitres, je pense. Je vais vous emmener dans le Lot et on va s'intéresser à la truffe. Donc ce champignon qui nous fait un petit peu rêver. Bah ouais, c'est la période aussi. Et puis Jean-Marie Pelt, en fin d'émission, ouvrira ses carnets de voyage d'un botaniste. Et nous irons rencontrer les Bouddhas de Bamiyan que lui a pu voir, a eu cette chance au moment où il herborisait en Afghanistan. Mais sans plus tarder, eh bien, on va s'offrir quelques morceaux de l'Elfemé de Pierre Dubois et de René Haussmann aux éditions Hoébec. C'est un grand, si vous voulez, légendaire des saisons. C'est-à-dire que Pierre Dubois entreprend de nous faire voyager dans l'imaginaire des saisons à travers les légendes, les contes, les dictons, et tout ceci se rapporte au climat, aux bêtes, aux plantes et à pas mal donc de coutumes. Et en fait, Pierre Dubois, les druides, les elfes, mais on en parle beaucoup dans cet ouvrage, mais bien avant René Dumont, Jean d'Orse, Jean-Marie Pelt, Nicolas Hulot, José Bové, c'était les premiers écologistes.
Tout était une forme d'écologie même, parce que il y avait un monde Sage, il ne l'était point comme d'habitude à cause des seigneurs, mais le bon peuple était sage comme toujours. Il savait bien que si on épuisait la terre, eh bien, elle mourrait un jour ou l'autre. Et toute cette petite mythologie nous le rappelait chaque jour. Nos anciens vivaient vraiment avec le sens des saisons. Ils vivaient de saison en saison. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait tout à fait au début. Et par exemple, que le ciel leur tombe sur la tête, que cette nuit perpétuelle de l'hiver viennent et les inquiètent, les effraient. Est-ce que le printemps allait revenir? Est-ce que les beaux jours allaient revenir? Ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient peur. Et ils surveillaient les moindres indices qui leur rappelleraient le début, les prémices des beaux jours qui allaient revenir. Ils interrogeaient le ciel et les druides étaient là aussi. Et à travers des contes, à travers des légendes, ils les rassuraient. Par exemple, on voyait arriver le rouge-gorge, c'était un signe. Le rouge-gorge, on ne le voyait pas l'été, parce que il avait autre chose à faire, le rouge-gorge, pendant l'été. Il s'est battu dans les buissons.
Mais l'hiver, il était là.
Et voilà, il avait faim, donc il se rapprochait des maisons.
Oui.
Et là, il se dit, mais il ne se rapproche pas des maisons, il nous ramène le feu. Il est parti chercher un tison dans le soleil, c'est pour ça qu'il s'est roussi de plastron, et il vient sautiller tout autour. On pourrait croire qu'il venait rallumer chaque foyer comme ça dans ses tournées en pépiant et c'est pour ça d'ailleurs je pense que sur toutes les cartes parce qu'il y a des rituels comme ça qui sont restés dans notre mémoire, notre vieille mémoire collective et notre mémoire qui vient de si loin. Sur chaque carte postale pratiquement, sur la branche du sapin enneigé, il y a le petit rouge-gorge et je crois que c'était ça, cette écologie. C'était attention, la nature est sacrée, elle est sacralisée. Si vous la détruisez, elle vous détruira ou elle s'en ira. Et il y avait cette histoire des petits lutins qui avaient offert donc le blé.
Alors cela, voilà. Donc, voilà. Quelle était la fonction du lutin dans la nature aussi?
Ah ben c'était un être protecteur, c'était vraiment par exemple le lutin, c'est le gnome, le gobelin, ce sont les esprits de la terre. Les elfes, ce sont les esprits aériens.
Oui.
Évidemment, les vivres, les sirènes sont les esprits de l'eau. Hein. Et le feu, alors évidemment, il y avait d'autres, il y avait les salamandres, mais il y a aussi le dragon. Mais le dragon, lui, était encore plus fort, parce qu'il mêlait absolument tous les éléments en même temps. Il mêlait le feu, il crachait le feu, il pouvait voler, donc il protégeait le ciel, il protégeait les cieux, mais aussi il protégeait le minerai. Il était au fond des cavernes, donc il allait, lui, s'endormir avec l'hiver. Et comme il s'endormait, son feu aussi s'éteignait tout doucement. Et il laissait la place à l'hiver, c'est-à-dire, là aussi, il fallait personnifier l'hiver. C'était donc la mère Gagache, c'était la sorcière de l'hiver, avec ses grandes dents d'acier, avec ses griffes de glace, avec son haleine qui tue tout, et ses cheveux en paille de fer. Et elle était là pendant tout l'hiver, à ricaner dans son coin et à menacer toutes les plantes. Mais certaines, justement, lui faisaient la nique.
Alors, je ne sais pas si elle rencontrait l'élébore, mais puisqu'elle fait partie, cette élébore, cette rose de Noël du mois de décembre, quelques mots quand même sur cette fleur.
Ah, l'élébore est magnifique parce que justement, c'est dans cette terre gelée, froide, dans cette herbe rase, il y a un petit peu toutes sortes d'élébores. Il y a l'élébore fétide, le vétrade blanc, l'élébore vert, l'orientalis. Alors, chacune sont différentes. Il y en a des verdâtres, il y en a des rosés, c'est plein de nuances. Disons que c'est presque les orchidées de l'hiver.
On les appelle
les roses, mais elles sont étonnantes. Et elles ont des parfums aussi mystérieux qu'elles sortent comme ça en plein hiver, même quelquefois de la neige, qu'elles soient aussi exubérantes, inquiétantes, étonnantes, elles ne pouvaient avoir que des propriétés magiques.
Alors magiques, mais ça veut dire qu'à la fois elles peuvent être poison et aussi guérir, comme très souvent
voilà,
les plantes.
Hein. Comme toujours les plantes. Alors certains évidemment disaient, mais il y a toujours aussi cette histoire entre le paganisme et le christianisme. Tout ce qui était positif chez les druides et les anciens devenait maléfique quand il y a eu le christianisme. Donc il y a toujours eu cette dualité entre l'ombre et la lumière. Ces fleurs qui poussaient disaient, bon, elles peuvent venir que du diable, puisque tout est froid, glacé, et s'il a brusquement monte de ces plantes exubérantes et étranges, on va les utiliser pour des poisons, pour des filtres d'amour.
Mais aussi pour guérir la mélancolie, voilà. Les convulsions, le haut mal et les possessions.
Voilà.
C'est ça le rôle de l'hélébore.
Voilà,
et le bétail.
Les femmes sages. Ah oui, ça, c'est le bétail est toujours important. Les druides, enfin, et les femmes sages, les sages-femmes, quoi, les sorcières ou les bonnes fées, hein, c'était au choix, allaient les cueillir parce que c'était vraiment une fleur positive. En plus, elle est tellement belle. Alors évidemment, le christianisme, la rose de Noël, c'est aussi la rose du petit Jésus. Donc après, on l'a auréolée, quoi.
Pierre Dubois, il y a aussi cette plante merveilleuse, toute jaune, toute duftée, qui est le mimosa.
Ah, le mimosa, c'est magnifique. Là aussi, ça annonce les... C'est assez curieux aussi que toutes ces plantes qui naissent de l'hiver sont très parfumées. Sont parfumées, ont des nuances incroyables et sont toujours, ont des couleurs éclatantes. Le mimosa, lorsqu'on amenait un bouquet de mimosa chez soi...
C'est une grappe solaire, vous
voilà,
le dites.
Voilà, c'est une grappe solaire et c'est le solstice. Et il y a ce mimosa qui sent si bon, qui rappelle l'été, alors qu'en fait, ça ne pousse pas en été, c'est bien au contraire, ça commence à mourir vers le mois de mars. Là, c'est un défi presque, le mimosa. C'est le combat de flore contre la mère Gagache. La flore est toujours là. Elles sont toujours là, c'est fait. Elles se sont endormies, certaines, elles se sont cachées, elles sont sous la neige, mais elles rêvent, et de leurs rêves naissent des fleurs qui attendent justement le renouveau.
Regardons quand même aussi notre assiette, et je sais que là, ce sont les agapes qui se préparent. On ne pense pas forcément au céleri quand on est au mois de décembre.
Ah oui, le céleri, pourtant, c'est très important, ça, le céleri. Alors, les enfants, manger du céleri, c'est difficile, mais ils devraient en manger. Mais c'est surtout les dames qui devraient en manger, parce que justement, elle conserve la jeunesse, mais aussi, elle est aphrodisiaque, et elle joue sur la virilité. On dit, par exemple, si femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris jusqu'à Rome, quand même.
Oui, c'est joli pour la rime, mais c'est ça.
Enfin, quand même, il y a le céleri en branche, et il y a aussi la pomme de céleri, mais toutes ont des propriétés.
Et alors les petits corrigans en Haute-Bretagne, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le céleri?
Là, c'est des malins. Alors, le corrigan, quand ils avaient des lourdes charges à porter sur la lande, et lorsqu'ils allaient au marché, ou à leur marché, eh bien, ils laissaient toujours une branche de céleri quelque part, et dans leurs chausses ou dans leur havresac. Ils attendaient que passe quelqu'un, quoi qu'il se rendait. Ils lui tendaient un bout de céleri, et l'autre mordait dans le céleri, et aussitôt, il se transformait en âne.
Pas bête.
Et sans mémoire. C'était vraiment un âne.
Et donc, ils l'utilisaient après comme bête de somme.
Ils l'utilisaient comme bête de somme, et ils allaient donc faire leurs affaires, ils allaient au marché, etc. Et une fois que c'était fait, eh bien, ils redonnaient encore un morceau de céleri, l'âne mordait dedans, et il redevenait un paysan qui se demandait ce qui lui était arrivé.
Oui, quand même, oui, futé le corrigan, c'est bien sûr. Et en fin d'émission, on retrouvera Pierre Dubois qui évoquera le sapin toujours dans cette éphéméride. C'était donc notre première partie. Nous allons découvrir dans quelques instants la truffe. Ouais, pas dans la chanson de Jackie Gelin, non, ça c'est délire d'alarme. J'espère que votre après-midi se passe bien. Vous êtes sur France Inter, c'est au De Mon Amour, magazine de nature, etc. Enfin, vous savez...
Ce monde à la dérive, barré comme un bateau ivre, où sont passés les commandants de bord. Et d'abord, qu'on ait voté pour ou contre, c'est la course contre la montre, entre les plus faibles et les plus forts. Plus d'accord. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon île. Au trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. s'écroule. C'est la panique dans la foule. Chacun se bat pour sauver sa peau. Sauf qui peut. Autour des canots de sauvetage, les rescapés du naufrage luttent à mort pour maintenir leur corps hors de l'eau. Viens, ô marraine, je t'emmène sur mon île, ô trésor, là où l'amour nous unira. Poursuivre nos rêves jusqu'au bout sans regret ni remords et toujours. Le cœur armé de courage s'arracher au grand naufrage des humains prisonniers de leur peur de l'amour. Viens, ô marraine, je t'emmène sur mon île. Ô trésor, là où l'amour nous unira à la vie.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
La vie, l'amour, la mort, c'était donc hygiène. Question tout à fait existentielle, c'était délire d'alarme et c'était un très, très beau délire. J'espère que vous avez pu l'écouter et non pas le voir. Nous avons la chance de le voir à la Gaîté Lyrique, Higelin avec Camille. Et là, il reprenait une chanson, boum, vous savez, de Charles Trenet. C'était un petit moment très, très fort. Voilà. Alors, on va poursuivre ce voyage. Tenez, je vous dis une chose parce qu'on est en train de préparer l'émission et surtout pour la rentrée. On aimerait bien que sur le répondeur de CO2 Mon Amour, 01 56 40 40 35. Je répète, 01 56 40 40 35. Bah vous déposiez à votre manière, joyeuse, je sais pas quoi, humoristique, enfin bon, vos vœux pour l'environnement et pour l'écologie. Voilà, donc je sais aussi que vous pouvez avoir un second degré absolument certain. Mais 01 56 40 40 35, ce sera pour l'émission du 4 et aussi tout au long de l'année. Et puis, de toute façon, ce répondeur est à votre disposition pour déposer vos messages, hein, vos annonces de manifestations, etc. Surtout, ne vous gênez pas. Alors, maintenant, deuxième partie, deuxième chapitre de cette émission. Je vous dis rien là.
Elle est toujours en réserve. Elle est toujours sur le côté. Elle est là, elle est présente, mais elle ne s'impose jamais. Et c'est vrai en cuisine aussi. Dès qu'on la met en concurrence ou au contact de produits forts en goût, elle se laisse dominer immédiatement. Jamais elle ne va s'imposer. Et pourtant, elle est très présente. Et ça, c'est merveilleux. Et cette espèce de discrétion, mais de discrétion affirmée, qui fait que c'est un produit hors du commun. Et c'est ça qui est beau dans ce produit-là.
Nous allons plonger notre nez dans l'univers de la tubermenalosporum. Alors je vous l'accorde volontiers, nous ne sommes pas dans un problème aigu d'alimentation de la population. Non, la truffe ne nourrit pas les hommes. Elle lui fait plaisir, elle l'enivre, elle le charme. Et plus qu'un champignon, eh bien c'est un mystère. Alors évidemment, il lui faut des lieux à ce mystère. Même si la grosse partie de la production française se trouve dans le Vaucluse, la Drôme, le Var, hein, 60% en région PACA, on parle souvent de la truffe du Périgord et de la truffe du Lot. Et choisir le Lot, eh ben, c'est d'abord choisir un art de vivre, c'est laisser traîner son micro sur le marché de l'Albinque, c'est être certain de récolter de la parole assez vive, parfois un peu cachée. Hein, et le museau en alerte qui balaye le sol, eh ben, j'ai rencontré Pierre-Jean Pébert. Alors Pierre-Jean Pébert, c'est un marchand de truffes depuis 4 générations. Vous savez, ça me rappelle un peu la gousse d'ail qu'on avait laissé traîner sous le nez du petit Henri de Navarre, futur Henri IV, fils de Jeanne d'Albret. Eh bien, dans la famille Pébert, c'est la truffe hein, qu'on a glissée dans le berceau. Et pour gratter la terre, pour caver, comme on dit, bon, il n'y a pas forcément d'objet mythique. Hein. Très souvent, un vieux tournevis fait souvent l'affaire. Et avant de rejoindre Pierre-Jean Pébert, on va suivre Alain Houillet, donc dans ce très beau département du Lot, et sa très gentille bébête. Il porte un nom ce cochon là, monsieur. Il porte un nom ce cochon, monsieur Houillet.
Je ne parlais pas. Non, mais je ne sais pas comment il s'appelle. On ne donne pas de nom au cochon.
Ah bah d'accord.
Seulement cette année, il n'y a pas de truffe. Le problème, c'est qu'il s'est déstabilisé à manger du gland. Et s'il y en a, il n'y a pas de truffe et ça le déstabilise un peu. Il s'amuse, voilà. Et je me demande même si la truffe n'est pas en perdition. Un bon truc, quand même, un peu, il y a longtemps que c'est pas passé.
Alors en fait, pourquoi les chiens, on va dire, et les cochons ont un odorat très développé pour la truffe?
Ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça se trouve comme ça.
Ouais.
Peut-être l'homme l'a développé le cerveau et il a perdu le nez un peu. Aïe! Ah, il y a bien des gens qui sentent bien le parfum que d'autres. Mais amène-moi le truc! Amène-moi le... Oh, putain! J'avais pas
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pierre-Jean Pébert, là où nous sommes, à quoi ça ressemble ce quercy blanc?
C'est un cos, donc il y a une végétation qui n'est pas très développée. La nature survit. Et puis après, il y a une espèce de lumière un peu métallique, d'un bleu-gris un peu métallique, qui accentue un petit peu ce côté sauvage et pauvre. Oui, c'est le pays des pierres. D'abord, il faut une terre très calcaire pour avoir de la truffe. Donc, qui dit une terre calcaire, dit des pierres, des murets de pierres.
Ouais.
Et un sol finalement pas très riche, un sol de cosse. Et c'est dans cette espèce de, je dirais pas semi-désert, mais de région assez aride, assez dure, que pousse la truffe. Et cette truffe se plaît dans des lieux assez sauvages.
Alors qu'est-ce qu'il lui faut? Un milieu quand même plutôt ouvert?
Alors il lui faut un milieu ouvert, et c'est le gros problème actuellement, c'est qu'il n'y a plus de truffes sauvages, parce que au début du siècle dernier, il y avait ce qui était cultivé et ce qui était exploité. Maintenant, nous n'avons plus que ce qui est cultivé et le reste est abandonné. À partir du moment où c'est abandonné, ce milieu se ferme, s'embroussaille et ne crée plus les conditions pour que la truffe puisse se développer. Auparavant, il y a un siècle, il y avait ce qu'on appelle l'agropastoralisme. Oui. Il y avait donc des bêtes qui étaient dans les lieux non cultivés. Il y avait les petites mains, les vieux, les enfants. Il y avait souvent derrière les bêtes, enfin souvent, toujours, un berger qui n'avait rien d'autre à faire que d'essayer d'exploiter un petit peu le lieu où il était. Alors, il récoltait des baies, il récoltait des champignons, il récoltait des truffes. Il entretenait également un peu ces lieux.
Ces lieux étaient jardinés, quoi, en gros, c'était ça.
Voilà, ils étaient nettoyés, ils étaient exploités, ils n'étaient pas cultivés.
Ouais.
Donc, quand il y avait 800 tonnes de truffes en France au début du XXe siècle, eh bien, 80% de ces truffes provenaient de ces lieux sauvages, non cultivés.
Parce qu'aujourd'hui, on est quoi, entre 25 et 50 tonnes à peu près?
Ou bien moins, bien mieux. On est entre 10 et 15.
Ah, et ça pour toute la France, hein, pas seulement sur le Lot et le Périgord. On est bien
pour toute la France, oui, bien sûr. toutes des truffes qui proviennent de truffières plantées, de vergers truffiers.
Alors Père Jean, on parle évidemment du chêne, mais enfin on peut dire un mot du noisetier aussi, je crois que...
Ça... Du noisetier de plein d'arbres.
Ouais.
Il n'y a pas que le noisetier, on peut trouver des truffes sous des charmes, sous des tilleuls, sous des pins d'Alep. Mais enfin, on ne trouve plus naturellement la truffe sous les chênes que sous les autres essences d'arbres. Le noisetier a eu son heure de gloire parce qu'il arrivait à une taille adulte plus rapidement que le chêne et donc... On a pensé à une époque qu'il produirait de la truffe plus vite. Parce qu'on était toujours dans l'idée que l'arbre produit la truffe. Apparemment, ce qui se plante le plus actuellement, ce sont plutôt les chênes verts. C'est vrai que c'est un produit, puis elle est souterraine. Et cette truffe, si elle n'existe sur la Terre, c'est qu'il faut des hommes. Pire que tout, il faut des animaux. Parce que l'homme seul n'est pas capable de la repérer. Donc il est obligé de s'emmerder, il faut bien le dire, avec un cochon ou avec un chien, ou à essayer de repérer les mouches pour trouver les petites truffes. C'est pour ça que le cochon souvent est meilleur que le chien, parce que lui, il a un intérêt direct. Il cherche la truffe pour la manger.
C'est ça.
Alors que le chien, il cherche ça pour faire plaisir, pour avoir une récompense. Ça fait... Il y a un second degré, là.
Ah. C'est quoi, Alain, comme marque de cochon, ça?
C'est tous les cochons truffes, je crois que c'est. Ah, oui.
Alors ça, c'est un terrain qu'elle connaît très bien.
Moyen,
hein.
Moyen. Il faut qu'il pleuve, c'est-à-dire c'est le truffière de qualité médiocre. Ah, on ne vient pas en trouver. Ah, cette année, c'est comme ça. Hein. C'est la catastrophe. Ouais. Ah, on ne va pas en trouver, mine de chien. Allez.
Hop. Hop, la récompense.
Il n'y en a pas de truc.
Le bout de pomme, pendant que vous grattez.
Il n'y en a pas, je ne sais pas ce qu'elle était. Oh. Il y en a une ou il n'y en a pas? Allez, allez. Elle ne me mord pas, c'est tout me mordre maintenant. Ah, je ne sais pas, moi.
Parce qu'en fait, cette truffe, elle est tout à fait réfractaire à la culture du laboratoire. Quoi. On ne sait pas reproduire exactement les conditions.
On connaît la vie de la truffe. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas la faire naître. On ne connaît pas l'instant zéro de la truffe. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, naît une petite truffe. Car la truffe est le fruit d'un champignon. Ce champignon, c'est le mycélium. C'est une sorte de toile d'araignée souterraine qui vit au contact de l'arbre. Cette toile d'araignée, ce mycélium, donne à l'arbre des sels minéraux. L'arbre lui donne des sucres qui fait par photosynthèse. Enfin, il y a un bon équilibre entre les deux.
Donc cette symbiose.
C'est une sorte de symbiose. Voilà. Mais ça peut fonctionner sans que, pour autant, le mycélium donne naissance à une petite truffe. Et tout le problème actuellement, c'est d'arriver à faire naître une petite truffe, à savoir comment ça fonctionne. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas.
Un kilo 345.
Oh, les 5 grammes.
340.
Alors là, en fait, c'est le pesage. Racontez-moi, monsieur.
Ouais, pour acheter ce qui est vraiment dans la...
Ça y est, t'as pesé ?
On pèse pour la réalité, quoi. Il me dit 1,5 kg, ça peut être bon, 1,385 kg.
Oui, ce qui change un petit peu les choses. Cette année, c'est une année comme on dit à truffe ou pas à truffe du tout ?
Ah non. 1,340 kg, je perds le fil.
Bon, alors là, ici, nous sommes donc à l'Albin, c'est-à-dire que nous sommes quand même dans... Et on va le dire, quoi, la mecque de la truffe, quoi, en quelque sorte, hein, donc c'est ça.
Mais maintenant.
Maintenant, parce qu'en fait, on a de moins en moins de tonnage, c'est ça ou...
Bien sûr. Il y a 40 ans, le marché comme aujourd'hui, il y aurait eu une tonne de truffes. Bon, il n'y a pas eu de rage d'été, donc pas de truffes, pas de cèpes.
Alors sinon, qu'est-ce qui vous plaît dans ce champignon, quand même? Parce que c'est quand même un champignon particulier.
Ah, champignon, c'est la recherche. La recherche, le plaisir de le chercher, de le trouver. On peut le ramasser, le chercher de trois manières, à la mouche, au cochon, au chien. Et puis l'été au mois d'août, à partir du mois d'août, à partir du 15 août, on voit la truffe à la marque, qu'on repère.
Hein ?
625.
Ah, 625, oui, c'est pas assez. Alors celles-ci, elles viennent du Sarladais.
Et là, ça a été cavé avec quoi ? Avec un chien, avec un cochon ?
Elles ont été cavées au chien.
D'accord. Et l'Albanc, c'est vraiment le marché de la truffe.
C'est le marché de la truffe, c'est le marché régional. Le marché de truffes en gros, malheureusement les paniers sont un peu trop petits.
Ouais.
600, tu m'as dit, 625. Il va pas rester les plus belles, ma pauvre Martine. Bien, 200 grammes.
200 grammes, Martine.
Alors Pierre-Jean Pébert, donc des prises agricoles d'un côté, réchauffement climatique de l'autre. On peut rajouter aussi des années où, quand le sol est sec, eh ben, c'est pas bon pour la truffe. Donc c'est un peu ça la conjonction qui fait qu'on en a de moins en moins.
Alors le réchauffement climatique, là, on n'y est pas encore là-dessus. Mmh. Par contre, des étés très secs, ça oui.
Ouais.
En général, les bonnes années de vin ne sont pas des bonnes années de truffes. Il serait temps qu'ils aient quelques mauvaises années de vin, parce que nous, ça fait une trentaine d'années qu'on a des étés plutôt secs et chauds. Et on aimerait bien avoir quelques étés pourris pour que la truffe puisse se développer.
Et tant pis pour le cœur.
Par contre, le réchauffement climatique peut nous amener de gros orages, de grosses variations. Un bon orage de grêle. La grêle met du temps à fondre. D'abord, elle refroidit le sol, qui souvent est très chaud. Et cette grêle nous la rafraîchit. Et aussi, elle met longtemps à fondre. Et donc, toute l'eau est disponible pour la truffe et pour la terre. Et il est assez curieux de voir que, finalement, il n'y a pas de terroir à truffe. Contrairement à plein d'autres productions agricoles, une bonne truffe qui pousse dans son au pied, là, dans le Lot, ou une bonne truffe qui pousse à Norcia en Italie ou à Teruel en Espagne, si elle est bonne, elle est bonne. Et je me défie, qui que ce soit, de me dire elle vient de là ou elle vient d'ici. Parce que finalement, elle vit tout entière dans la terre, mais sans doute, elle n'a pas le temps dans sa vie, qui est de 10 mois, de puiser peut-être tout ce qu'un terroir peut donner d'esprit, oui, de goût, de corps à un produit.
Ah, c'est dit, il y en a une, elle est petite.
En fait, c'est quand même la concurrence entre le cochon et l'âme lorsque vous en trouvez
peut-être,
une. Hein.
Peut-être des fois, ici, je n'ai pas le récompense. Ah, si, il y en a une, elle est bien petite. Elle est, c'est une truffe gâtée. Allez, ça devait tomber. Aïe, il m'a mordu. Bon, il faut que je couche. Ah, normalement, il faut l'attacher. Enfin, il faut il n'y en a pas de truffe. Il faut que. Allez.
Et oui, mais il n'y en aura plus après. Combien il y en avait ?
1,6 kg.
1,6 kg.
Il y a quand même, fort heureusement, j'allais dire, une grande part de hasard quoi, dans les truffières.
C'est sûr qu'il y a une part de hasard, tiens.
C'est quoi le cours actuellement, monsieur ? Ça se négocie à peu près à combien, enfin, en moyenne, aujourd'hui ?
Autour de 800 euros le kilo.
Bon, ça dépend des années, quoi, de toute façon. Ça dépend s'il y en a, s'il n'y en a pas, c'est toujours l'offre et la demande.
C'est un marché de gré à gré. C'est un accord entre le producteur et l'acheteur. C'est suivant aussi la météo de l'année passée, suivant la quantité.
Alors là, donc, ce sont des gens qui viennent aussi bien du Périgord, évidemment ici du Lot.
C'est un marché régional. Ouais. La majorité des producteurs se trouvent sur les côtes du Quercy.
Comment qu'est-ce qui me plaît ?
Eh bien oui, c'est
ça. Déjà, c'est le plaisir de faire pousser les chaînes.
Ouais.
Et puis après, de vendre le produit. De faire plaisir aux gens qui aiment la truffe.
Ouais. Alors principalement, c'est quoi ? C'est des gastronomes ? Ce sont des restaurateurs ?
Ah,
ce
oui,
sont
des particuliers, il y a de tout. Oui, ouais. Oui. Pour les petites quantités.
Ouais, c'est
après,
ça.
C'est les courtiers.
Oui.
Les courtiers qui prennent les gros paniers. Mais cette année, il n'y en a pas.
Les marchés aux truffes sont sans doute les marchés les plus ouverts qui existent, parce que c'est sans doute le seul marché agricole où un courtier professionnel va être en concurrence avec un particulier qui passe et qui veut s'acheter une panier de truffes. Donc c'est inimaginable dans une autre production agricole. Aller dans une criée pour professionnel, acheter votre poisson du soir, ça c'est pas possible. Dans la truffe, c'est possible. Donc, c'est pas si fermé qu'on veut bien le dire. Mais les gens trouvent dans ce côté secret une touche, quelque chose de plus pour la truffe.
Ah, vous aimez la truffe, hein ?
Vous aimez, ouais. Ils aiment les truffes.
Vous avez travaillé comment, vous, après, alors, qu'est-ce que vous en faites ?
C'est un grand restaurateur devant l'Éternel.
Ah ben voilà.
Il a choisi 5 ans, il est à table.
Ah, voilà, je suis à table.
Là, comment vous la préparez, vous ? Qu'est-ce que vous aimez faire avec la truffe ?
Moi, personnellement, c'est cru, ouais. Nature.
Juste ça, ok.
Ah, ouais. Bon. Moi, ça m'arrive des fois, quand je cave, quand je ramasse un peu de truffe. Si y a des riz, je les trouve un peu, je le mange. Et c'est excellent.
Comme un cochon, quoi, la limite qu'il a trouvé, c'est un peu ça.
Ah. Allez. Et voilà, il n'y en a pas de truffe, tout ça, merde. Je sais pas fait. Allez, il s'est pas fait.
Allez, oui. Bon. Donc c'était une fausse alerte, quoi.
Allez, viens. Ouh, quoi, aujourd'hui, c'est pas le jour. Il n'y en a pas,
Eh bien oui, il n'y en a pas. Ça a eu payé la truffe, mais ça ne paye plus. Vous n'avez pas en trouvé un qui va vous dire « Ouf, c'est formidable », etc. Alors bon, les cours sont redescendus entre-temps, c'est-à-dire que nous étions à 400 euros aujourd'hui. Si vous y allez en touriste, on va vous arranger, ce sera plutôt 450 pour vous faire plaisir. Mais voilà, donc c'est à peu près ça, donc c'est extrêmement variable. Et puis, donc un grand merci à Pierre-Jean Pébert de nous avoir raconté cette truffe qui vient de sortir aux éditions Ferré, F-E-R-E-T, à Bordeaux. Le manuel de la truffe. Il m'a dit ça donc tout à l'heure, il vient juste à peine de sortir cet ouvrage. Et puis, à la manière, si vous voulez, de la truffe qui vient rehausser le plat, mais sans du tout casser le goût initial, eh bien, Jean-Christophe Imbert, mon formidable réalisateur, donc colorie ce reportage, Jean-Christophe, eh bien oui, bien sûr, Christophe Imbert. Et entre autres, vous avez entendu Dimitri Shostakovitch avec Une année et comme une vie. On vous mettra les références sur le site de CO de mon amour. Une petite musique, et puis maintenant, dans quelques instants, on va retrouver Jean-Marie Pelt et on va partir en Afghanistan. Right. Ooh, go Ah bah pop rock où je m'y connais pas, hein, bien sûr. C'est Thierry Dupin qui nous a choisi cet album, cette chanson Tonight. C'était un petit peu tôt peut-être, mais en tout cas c'était Rover sur France Inter. Vous n'hésitez pas, 01 56 40 40 35, vos vœux pour la planète, pour la nature, pour l'écologie. Et puis le site de CO2 Mon Amour. Bah, vous le connaissez, pour converser entre vous, pour déposer vos messages, franceinter.fr. On va partir avec un carnet de voyage d'un botaniste. Voilà, petit voyage en Orient avec vous. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Parce qu'on va continuer donc ces voyages avec vous. Carnet de voyage d'un botaniste. Et on va aller vers à Bamiyan. Alors ça, on connaît Bamiyan parce qu'on a évidemment ce souvenir malheureusement de ces Bouddhas qui ont été décapités et complètement après explosés. Donc racontez-nous.
Bah, écoutez, quand vous allez en Afghanistan, que vous faites une mission, et surtout une mission botanique, il faut donc aller sur le terrain. Et le premier endroit où évidemment on se précipite, c'est à Bamiyan, parce que c'est le seul site connu internationalement de l'Afghanistan. Et pour aller à Bamiyan, il faut prendre la route du Nord. Mais la route du Nord, il faut qu'elle perce la chaîne de l'Hindoukouch. Au nord précis de Kaboul, la chaîne a 3900 mètres. Et on suit la rivière Gorband. Et on monte. Et on monte dans une vallée assez étroite par endroits. Et on arrive enfin à un col, qui est le col de Chibar, qui est à 3000 mètres. Et qu'est-ce qu'on voit à Chibar, quand on est botaniste ? On voit de merveilleux champs de blé. Alors je vous explique comment ils sont faits, ces champs de blé. Vous voyez, vous avez un épi ici, à 10 cm, il y en a un autre, à 30 cm, il y en a un troisième.
On sent bien que ce n'est pas la Beauce, c'est le rendement productiviste. Là, hein,
c'est pas très productif. Je pense que ça doit faire quelques kilos à l'hectare. Non, c'était vraiment comique, quoi. C'est tragique, oui. Mais c'est tragicomique. Et puis on redescend de l'autre côté, vers la vallée de Bamiyan, où on arrive quand même après avoir fait 200 km par rapport à Kaboul, dont on est parti. Et alors on découvre cette fameuse falaise de Bamiyan avec ses Bouddhas. À l'époque, les Bouddhas étaient là. Alors ces Bouddhas sont taillés dans la falaise. L'un à 55 mètres de haut, c'est le grand Bouddha. L'autre est un peu plus petit, il a 30 mètres à peu près. Et il est moins beau. Il a été fait plus tard. Ces Bouddhas datent du 7e siècle. C'est des monuments très anciens. À l'époque où le bouddhisme s'est propagé en Afghanistan avant l'islam. Et ben, on sait très bien, parce qu'on l'a vu à la télé, que ces Bouddhas ont été foudroyés par les talibans, je crois que c'était en mars 2001, si je me souviens bien, et que ça a été vraiment un attentat monstrueux au patrimoine mondial, parce que ce sont des monuments d'une valeur vraiment mondiale. Bon, nous les avons vus, nous sommes montés sur la tête d'un des Bouddhas. Et puis de la tête des Bouddhas, on voit au loin le Kowi Baba.
Ce qui signifie ?
Ce qui signifie le père des montagnes. Voilà, et c'est ça culmine à 5160 mètres à peu près. Alors dans cette vallée qui est cultivée, où on nous dit qu'en hiver il fait un froid épouvantable, mais nous sommes en été, donc on n'a pas le problème, où il y a, paraît-il, beaucoup, beaucoup de neige en hiver, où il y a peu d'habitants, c'est un petit village. Alors nous avons vu quelque chose de tout à fait surprenant. C'est des saules qui mettent par terre une espèce de glu. Puis on voit tout d'un coup des gouttes qui descendent des feuilles. Alors ces gouttes sèchent quand elles tombent par terre. Ce n'est pas de l'eau, c'est une sécrétion du saule qu'on appelle la manne de Perse. Mmh. C'est des sécrétions sucrées. Et elles font sous le saule une espèce de...
De nappe.
Je n'avais pas du tout prévu de voir ça, donc on a prélevé ces branches de saules pour regarder ce que c'était. Alors les saules sont très présents dans l'histoire de l'Antiquité. Vous vous souvenez que les Hébreux, quand ils ont été mis en captivité par le féroce Nabucodonosor, on trouve ça dans la Bible, ils pleuraient sous les saules qui sont au bord des grands fleuves de la Mésopotamie. Pratiquement 7 siècles avant Jésus-Christ, il y a donc très très longtemps. Et les saules pleureurs ont été baptisés comme ça parce que les Hébreux pleuraient sous les saules. Là vient l'expression le saule pleureur. Donc nous avons eu nos saules. Et puis alors, il y avait le clou du voyage, c'était d'aller au lac de Bandiamir. Bandiamir. 70 kilomètres de la vallée de Bamian, par une piste qui n'est que très peu empruntée. Et alors, on est dans un environnement de haut plateau, avec quelque chose d'extrêmement curieux. C'est des plantes qui ressemblent absolument à des hérissons. C'est des petites boules piquantes, des petites boules piquantes, qui sont rapprochées les unes des autres. Et entre ces boules piquantes, eh bien, il y a les fameux jarous dont nous avons parlé dans une autre émission, c'est-à-dire des plantes qui peuvent faire des balais. Et ces plantes qui peuvent faire des balais, c'est des éphédras. Et ces éphédras contiennent de l'éphédrine. Oui. Et cette éphédrine est un excitant nerveux.
C'est-à-dire que c'est la famille des amphétamines, non ?
C'est ce qui a été à la base de la création des amphétamines. Oui. C'est la molécule de base à partir de laquelle, par bricolage synthétique, chimique, on a fabriqué des amphétamines qui sont évidemment des médicaments, mais aussi des drogues, et qui sont très dangereuses. Quand on est adepte des amphétamines, on est généralement en très mauvais état.
Quand on est coureur cycliste, on connaît, oui.
Oui, c'est ça. Et puis alors, il y a aussi des chardons, qu'on appelle des cousinias, et il y a ça à perte de vue. Vous avez les chardons en fleurs, vous avez les fameux éphédras, et puis vous avez les hérissons, que les Allemands appellent les Eagle Steppe, des steppes à hérissons.
Steak aussi, oui.
Oui, c'est ça. Puis nous arrivons à 3300 mètres d'altitude. Tout d'un coup, on découvre les lacs de Bandiamir. Alors ça, écoutez, je crois que c'est, du point de vue naturaliste, le plus beau souvenir de ma vie. Quand vous voyez dans ces immenses steppes de haut plateau, ces lacs d'un bleu éclatant, avec autour, parce que c'est un canyon, et ces lacs sont en série les uns derrière les autres, dans un canyon assez profond, mais moins profond que celui du Colorado, où les montagnes sont d'un gris ocre. Vous avez cette masse d'eau bleu foncé, le ciel est bleu foncé, on est très haut, hein. On est en altitude. Alors nous sommes restés médusés par la beauté, on a fait d'innombrables photos. Je pense que c'est un paysage qui devrait être classé au patrimoine mondial. Mais bon, l'Afghanistan actuellement, c'est pas la priorité première. Et puis les lacs se déversent les uns dans les autres. Alors nous avons une idée incroyable, je réalise qu'elle est incroyable aujourd'hui, c'est de passer le long du déversoir derrière la cascade. Derrière la cascade, oui. Et de ramasser toutes les plantes qui vivent derrière la cascade. Alors on a fait une gymnastique à haut risque, que je ne ferai plus aujourd'hui, mais j'étais pas raisonnable à l'époque.
Herboriste acrobate.
Et nous avons recueilli toutes les plantes qui poussaient là. Mais figurez-vous qu'on a découvert quelque chose de tout à fait surprenant, c'est que ces plantes-là sont les mêmes que chez nous. Les plantes qui poussent dans l'eau, elles sont pratiquement les mêmes, sauf sous les tropiques, dans tout le restant du monde.
Ce qui veut dire qu'on a le sol, on a le climat, mais oui. Si on a de l'eau...
Si on a de l'eau, c'est un facteur écologique très très important, et si on a de l'eau, les plantes qui supportent l'eau et qui aiment l'eau, eh bien, elles sont les mêmes un peu partout dans le monde, oui. Sauf sous les tropiques où il y en a encore d'autres. Mais celles que nous avons rencontrées, elles sont effectivement partout. Ça nous a beaucoup frappé, ça. Alors que les plantes qui poussent en milieu terrestre varient beaucoup d'une région à l'autre, d'un climat à l'autre, d'une zone à l'autre. Mais l'eau est un facteur écologique vraiment essentiel. C'est ce qu'on a rapporté au point de vue botanique dans nos publications pour expliquer ça. Alors on a passé la nuit dans une petite mosquée, on était tout seul. Et tout d'un coup, il y a un Afghan qui est apparu le soir avec son turban et puis deux chèvres. Et puis voilà, Tipa, il parlait pas le farsi, il parlait le pachtoun. Alors Shafik s'est mis à parler le pachtoun. Nous n'avons pas compris un mot, pas un mot de ce qu'il se disait là. Mais nous avons partagé le thé, nous avons fait du thé. Parce que la nuit, il fait un froid terrible. On a grelotté, on était trempés. On était trempés par un froid terrible. Comme Hubernatus, vous voyez à peu près.
Ah oui.
C'était à peu près comme ça. Et puis, on est revenu très fier de notre mission à...
De cryogénisation.
Je garde un très beau souvenir de cette mission. C'est dommage que l'Afghanistan est dans cet état.
Merci Jean-Marie. Carnet de voyage à botaniste aux éditions Fayard. À très bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis. Au revoir à tous.
Et nous poursuivrons le voyage aussi sur d'autres continents avec Jean-Marie Pelt. Et là, eh bien, je vous l'avais promis, Pierre Dubois, toujours, l'éphéméride, et quand même, bah oui, c'est la saison, mon beau sapin, roi des forêts, hein, qu'est-ce qu'on peut en dire, Pierre Dubois?
Alors, le sapin, là encore, donc il y a à la fois le paganisme et la christianisation, mais au départ, quand même, le sapin a été inventé, fabriqué par le diable. Parce que, en fait, dans son enfer, les diablotins lui menaient une vie d'enfer au pauvre diable. Donc, un jour, il en avait assez, surtout qu'il en avait une ribambelle. Sa mère.
Et si ça se reproduit, hein, le.
Voilà,
le
la mère lui en avait laissé, la grand-mère, et puis sa femme aussi. Donc, ça regorgeait de diablotins. Oui. Et un jour, il en a eu assez, et il les a attrapés par la queue, même. Et il les a balancés sur terre. Et là, bien qu'ils étaient en enfer, qu'ils avaient l'habitude des flammes, là, arrivés sur terre, le soleil était encore très jeune, et il cuisait. La peau, pas une ombre, rien du tout, de la lande, de la caillasse, rien. Alors évidemment, ils s'amusent, ça les amuse au départ, ils jouent à saut de mouton, tout ce qu'on veut, puis quand même, le soleil il commence à les cuire, et là, ils se mettent à râler, à pleurer, à grogner, et le père descend, agacé, dit « bon, ben ça va, la paix, je vous crée des buissons, là, vous serez, vous aurez de l'ombre, vous serez bien mieux. » Ben oui, seulement les buissons, ils étaient bien, ils étaient fin bénache au départ, ils étaient bien dans leurs buissons, mais les chèvres sont venues, les chevreuils, et ont mangé les feuilles. Mmh. Et là, ça recommençait, ils se sont mis à hurler.
On a trop chaud.
Et voilà, on a trop chaud. Le diable est descendu, a dit « bon, je vais vous faire des arbres », et il a fait des arbres magnifiques, des ormes et tout ce qu'on veut, des chênes superbes, oui. Beaux, mais l'automne arrive, alors ils sont séduits au départ, oui. De voir que les feuilles s'embrasent. Et ça leur rappelle l'enfant, ça leur rappelle la maison, ça leur rappelle l'enfer.
Et
là, brusquement,
feuilles.
Tout tombe. Voilà, oui. Ça, c'est feuilles. Et là, la neige tombe. Mmh. Et la pluie aussi, ils sont transis. Là, ils ont très froid. Et ils appellent à nouveau le diable qui dit « bon, mais c'est... je descends, mais alors là, c'est la dernière fois. » Et ils cherchent à faire un arbre bien droit et haut pour que les chèvres, les chevreuils ne puissent pas manger les chèvres.
Et
à feuilles persistantes et bien serrées. Ainsi, c'est imperméable. La pluie ne tombe pas, la neige est arrêtée et là, les petits diablotins peuvent s'amuser en paix en dessous. Et ça, ce qui est assez curieux, c'est que ce sapin diabolique,
oui.
Là par contre, va devenir le sapin de Noël avec la crèche en dessous.
Un extrait donc de cet Elphéméride, le grand légendaire des saisons, automne-hiver, aux éditions Houellebecq de Pierre Dubois, avec des illustrations donc de René Haussmann. Donc, à consommer sans modération, comme on dit très subtilement. Et bah écoutez, on va pas se quitter comme ça. Ah, pas du tout. Petite surprise. Vous avez remarqué quand même, Christophe Imbert, c'est quand même le seul réalisateur à avoir trouvé des sons et des cris de diablotins. Ah, c'est le seul. Pour ça que je le garde. Sur ce merveilleux générique de fin, que vous dire, nous allons remercier Grégory Vallon et Michel Thomas, la technique aujourd'hui, Stéphane Combe, notre assistant, Albert Houck, Christophe Imbert qui a réalisé cette émission, Thierry Dupin qui choisissait les disques, sauf le dernier là, ça c'est pas lui, Anne Gouzon qui donc nourrit les sites de CO2 Mon Amour, donc n'hésitez pas, franceinter.fr, vous laissez vos messages, commentaires, mais aussi bah, c'est fait pour que vous participiez les uns avec les autres, hein, donc n'hésitez pas. La semaine prochaine, le 28, alors non, on n'a pas encore tout construit. Nous avons peut-être du Pierre Rabhi en Ardèche. Nous avons de la mer de glace. Nous aurons du cacaoyer. Nous aurons... voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est encore un petit peu mouvant. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Et bien sûr, on se retrouve, vous l'avez compris, la semaine prochaine. La Tulu, mon petit loup, c'est demain à 19h54, après les petits bateaux. Et puis, possibilité pour vous d'écouter, de réécouter, de podcaster cette émission. Vivre avec les bêtes, ce sera demain, dimanche, à 15h. Allez, un petit tour dans le 16e siècle.